Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani.
L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous, avec la pasteure Élise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jethro Camille.
Bonjour à tous, bienvenue à l'Instant Bible. Notre ambition, c'est de rendre la Bible la plus claire et la plus intéressante possible, la plus pratique. Nous continuons notre quête des origines et nous allons voir deux histoires aujourd'hui, celle où Noé se plante et celle où les habitants de Babel veulent construire une tour immense. Et j'ai deux amis qui sont chers à mon cœur, qui sont là aujourd'hui avec nous. Il y a Carl, bienvenue Carl.
Salut.
Et Élise, content de te voir Élise.
Salut tout le monde.
Welcome among us.
Thank
bienvenue
you.
Parmi nous. Alors, on va peut-être se pencher sur ce que Noé fait en lisant le texte de Genèse 9. Élise, est-ce que tu peux nous en lire, s'il te plaît, versets 18 à 29.
Alors, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères !» Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave !» Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut.
Très bien, merci Élise. Alors, pour résumer, Noé boit, Noé s'enivre, et puis ensuite, un de ses fils, qu'il a vu nu, se fait maudire par son père. Alors, peut-être un petit problème de terme, là. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Quelle est la portée? En quoi ça contraste avec une bénédiction? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu à ce sujet?
Écoute, mais juste avant, je voudrais faire une petite remarque très simple, parce que je crois qu'on s'adresse à des gens qui vont, à des personnes qui n'ont pas tout lu la Bible, comme personnellement moi, où j'ai grandi dedans. Paul nous dit que ces histoires sont là pour notre instruction. Il va même dire notre instruction par rapport au salut. J'ai tendance, quand je lis les textes, à les voir globalement dans le contexte du salut, sans m'arrêter à ces petits détails de l'histoire. Ce sont des histoires, sans me poser toutes sortes de questions que notre pensée rationnelle cartésienne cherche. Je me rends compte que, par exemple, très rapidement, le récit de la création nous est donné comme le point de départ de tout. Tout est bon. Le récit du déluge vient, c'est la création à l'envers, où tout ce que Dieu a placé là est bouleversé. Et l'histoire de Noé, c'est encore le récit de la création qui recommence. Et nous avons des termes dans cette histoire qui nous renvoient à Genèse. Noé sort, il offre un sacrifice, et Dieu décide de le bénir, n'est-ce pas ? Lui, aussi bien que la nature, etc., etc. Bien qu'il y ait quelques petites différences, maintenant tu pourras manger de la viande, alors que dans la création, c'est le végétal, tu vois. Et deuxièmement, il y a un ordre qui est donné par rapport à... Tu ne tues un point, et tu as une indication sur le sang. Et le récit que Élise vient de lire nous rappelle quand même aussi la création. Il y a là une malédiction prononcée après avoir pris un fruit, qui est le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et qui...
Dans la Genèse, hein.
Dans la Genèse. Voilà. Et aussitôt après, il se trouve nu, exactement comme le père Noé, qui a mangé un fruit, la vie et qui s'est enivré.
Oui, c'est un parallèle intéressant, effectivement.
Nous retrouvons beaucoup d'éléments. C'est pour cette raison qu'il faut lire la Bible avec cette vision globale du salut qui se répète au fur et à mesure que le récit progresse. Et nous voyons que Adam et Ève étaient nus, Dieu va les couvrir. Et nous voyons les deux autres fils qui couvrent leur père pour cacher cette nudité. Et ensuite, tout tombe sur Cam, qui serait un petit peu, eh bien... toutes les malédictions, qui incarne un peu cette malédiction que Dieu prononce sur sa création.
Dans la Genèse 3, voyez,
alors donc, par rapport à ta question maintenant, je dirais en toute simplicité, bénir, c'est apporter quelque chose de plus. Lorsque Dieu bénit, il apporte à la chose un plus, voyez-vous. C'est pourquoi une bénédiction avait toujours une importance capitale à l'époque et les parents bénissaient leurs enfants. J'étais une fois en Inde et chez quelqu'un qui n'était pas croyant. À la fin, il m'a dit, pasteur, bénissez mes enfants. Bénissez-nous. Bon, j'ai pris ça pour... J'ai fait une prière, tout simplement. Je n'ai pas apporté un plus pour dire, écoutez, comme ce fut le cas pour les personnages bibliques, qui apportaient ce plus. Une malédiction, c'est peut-être priver quelque chose par rapport à la bénédiction, enlever, et priver, tu vois, diminuer, priver, quelque chose comme cela. Donc, une malédiction est prononcée sur Canaan, sur Cam, et là encore, c'est toute l'histoire des Cananéens qui est prévu dans cette malédiction de Cam. Voilà un petit peu.
Alors, on prend des rangs très intéressants. Alors, Élise, toi qui es pasteur depuis déjà un certain nombre d'années, est-ce que tu as le pouvoir de bénir et de maudire les gens? Dis-moi un petit peu.
Alors, je ne sais pas si ce serait bien ou pas. Je pense que ça ferait beaucoup de ça serait un peu trop, tu vois. Je ne suis pas sûre de bien le vivre, d'avoir autant de pouvoir. En tout cas, des malédictions dans la Bible, il y en a plusieurs. On en trouve à plusieurs endroits. À plusieurs reprises, d'ailleurs, c'est des pères qui, parce que leur fils s'est mal conduit, au lieu justement de faire cette bénédiction rituelle en leur souhaitant du bien pour l'avenir, le meilleur, souvent, ils disent « tu as agi comme ça, les conséquences seront ça ». Il y a aussi des malédictions sur des peuples, il y en a dans la Bible. Personnellement, la compréhension que j'en ai, c'est pas qu'on a le pouvoir, une sorte de pouvoir magique qui permettrait d'altérer la suite de vie...
Et la réalité des gens.
La réalité des gens. mais... Alors, c'est un mot très fort, mais je pense toujours au mot atavisme. C'est un mot compliqué. L'idée, c'est... Ce qu'on vit dans sa famille, ce qu'on vit dans sa vie... a des conséquences
qui vont sur
nous-mêmes et voire même sur nos descendants. Par exemple, si quelqu'un a un parent violent, les scientifiques, les sociologues, les psychologues disent il y a de fortes chances que l'enfant lui-même reproduise par après cette violence. Ce n'est pas un absolu, ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu des parents violents, forcément,
mécaniquement,
on va être violent, mais les risques sont augmentés. Et je me demande si parfois les malédictions dites dans la Bible, c'est pas plutôt la portée des conséquences de ce que tu fais a des conséquences sur toi-même, mais aura des conséquences sur ceux qui viennent après toi parce qu'ils portent ton passé. Je donne un exemple, alors c'est pas un exemple personnel, c'est quelque chose que j'ai entendu ou que j'ai discuté avec un médecin, un chiropracteur, qui m'expliquait que lui est persuadé que ce qui se passe dans le passé peut avoir des conséquences, jusqu'à des conséquences physiques sur les gens. Et il m'expliquait qu'il a soigné les femmes d'une même famille, la mère et les trois filles, qui toutes avaient des problèmes au niveau du cou épouvantables. Mais vraiment, elles avaient des douleurs toutes affreuses. Et il les soignait, il sentait bien qu'il y avait quelque chose, et il les a invitées à essayer de voir ce qui avait pu se passer avant. C'était des femmes qui venaient... Il ne m'a pas dit exactement d'où, il m'a dit d'un pays d'Asie. Et elles savaient que la famille, avant, la grand-mère, avait immigré de façon un peu brusque. Mais elles n'avaient jamais posé de questions. Et elles sont allées voir cette femme, cette grand-mère, en disant « Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille qu'on ne sait pas ?» Et là, leur grand-mère a fondu en larmes et leur a expliqué que l'arrière-grand-mère, donc sa maman à elle... a été accusée de sorcellerie là où ils étaient et qu'elle a été traînée dans le village et qu'on lui a coupé la tête sous les yeux de sa fille, donc de cette grand-mère, qui n'en a rien dit à personne, qui s'est enfuie de son pays, qui a immigré ailleurs, qui s'est mariée, qui a eu des enfants. et qui, malgré elle, a passé quelque chose. Qui, parce que c'était tu, s'est révélé physiquement, et c'est quand même incroyable que toutes les femmes de cette famille avaient mal au cou. Alors, j'ai pas d'explication. Il y a plus ou moins des explications scientifiques au niveau des gènes, le transgénérationnel, l'épigénétique. Tout ça, il y a des choses qui passent et on le sait. Mais moi, ce que je crois, c'est vraiment que la Bible, déjà à l'époque, disait « Ce que tu fais n'impacte pas seulement toi-même. Impactera ceux qui viendront après toi parce qu'ils porteront ton bagage génétique, ton bagage émotionnel. » Et donc, quand Noé fait cette chose terrible de dire, de dire une malédiction à son fils, je pense qu'il parle sous la colère, mais que quelque part, il est en train de dire à son fils « Ces actions que tu fais, c'est quand même... »
Et l'attitude mentale que ça révèle.
Exactement, parce que c'est quand même pas rien de se dire « Tu as ton parent, ton père, tu le vois dans une situation de faiblesse. Honteuse dans le sens où quelqu'un de bourré, il est capable de tout et n'importe quoi. » Moi, je me souviens, j'avais un ami, quand il était bourré, il voulait donner son argent à tout le monde. Alors, comme on était des gens à peu près bien, on acceptait l'argent et on le remettait en douce dans son porte-monnaie et nous le redonnait au moins 5 fois, 10 fois. Mais s'il tombe sur des gens moins sympathiques, il se fait plumer. Les gens alcoolisés, fortement alcoolisés, font des choses hors de sens. On peut profiter de quelqu'un qui est alcoolisé. Et se dire que Cam a vu son propre père et au lieu de le protéger et aller chercher les seules autres personnes qu'il y avait dans le coin, ses frères, pour dire « Venez voir la honte de notre père. Venez voir à quel point il est ridicule. Venez voir, on va bien se marrer. »
Mais alors, pourquoi
ça,
est-ce que...
Ça montre un état d'esprit quand même très particulier. Et ça, ben, ça veut dire que le jour où lui-même aura des enfants, cet état d'esprit qu'il avait envers son père, dans son éducation, elle va ressortir.
Alors, tout à fait. Mais pourquoi est-ce que Noé, quelque part, ne coupe pas la part en deux? Parce qu'il est quand même aussi responsable que Cam de l'état de la situation. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui s'en livre et c'est pas...
Je voudrais juste dire quelque chose. Ce récit doit nous parler aujourd'hui. Sans quoi, ça ne sert à rien. Le concept de bénédiction et malédiction a toujours été au cœur de l'être humain et dans toutes les églises hiérarchiques. Toutes les églises ou tous les cultes où vous avez une hiérarchie, le sorcier, le marabout, eh bien, le prêtre parfois, eh bien, détiennent le pouvoir de bénédiction et de malédiction. Quand une guerre a lieu entre deux peuples chrétiens, de chaque côté, eh bien...
On bénit ou on maudit à tout le monde.
On maudit à tout le monde. Et ensuite, au fond de nous-mêmes, quand tout va bien, c'est Dieu, bénédiction. Quand tout va mal, c'est le diable, malédiction. Donc, nous sommes là devant un concept, puisque tu l'as posé, qui n'est pas étranger à notre culture. Et ce qui est intéressant ici, peut-être dans la vision biblique, parce qu'on a toujours tendance à lier bénédiction et malédiction à la personne, à sa faute, eh bien, Noé n'est pas condamné. Noé n'est pas condamné, n'est-ce pas? Dans la création, c'est le serpent qui est maudit, n'est-ce pas? Et la terre. Dieu n'a jamais maudit ni Adam ni Ève. Ici, Noé n'est pas condamné en soi, il sera même... dans Ézéchiel, un personnage de référence avec Job. Et Jésus va reprendre cette histoire. C'est là que j'aurais aimé que nous comprenions cette dimension globale.
Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné? Parce que ce qu'il a fait quand même répréhensible, s'enivrer jusqu'au point d'être nu devant ses enfants, de faire n'importe quoi.
Non, là peut-être tu vas un peu loin. Tu vois, est-ce que le texte dit qu'il a pris les fruits de la vie? Peut-être, moi j'avais bu dans ma vie, je connais pas le goût de l'alcool, et je peux pas médicalement justifier quoi que ce soit ici. Mais je me rends compte que c'est la suite de ce fruit, de cette fermentation sous l'effet, eh bien, qui va se trouver nu. Ça c'est un spectacle que j'ai vu souvent dans mon pays, dans les îles, et des gens qui, sous l'effet de la boisson, se baladent tout nus dans la ville, n'est-ce pas? Tu en as aussi vu dans ton pays. Donc c'est pas, et donc, est-ce, mais le problème, c'est Cam, n'est-ce pas? Les deux autres, eh bien, ont respecté leur père. Là, il y a toute une, toute, mise en situation, où ils viennent à reculons, etc., etc., pour ne pas découvrir cette unité qui, dans toute l'histoire, a toujours été entourée de pudeur.
Pas tabou, hein. C'est...
Je ne parlais pas de tabou, une pudeur par rapport
dans les rapports parents et fils, entre parents et enfants, il y a un tabou.
Et d'ailleurs, la Bible semble mettre un interdit. Tu ne découvrirais pas
la nudité.
Ça revient constamment. Mais à ce stade de la révélation, eh bien, il n'est pas dit si c'est interdit de boire ou pas. À ce stade de la révélation, on verra après quel sera l'enseignement de la Bible sur l'ivresse, etc., n'est-ce pas? Donc, il n'a pas cherché à être ivre, il semble que ça lui tombe dessus, sans même qu'il... Est-ce qu'il savait qu'en prenant trop de raisins que ça pourrait... Je ne peux pas me prononcer ici, bien que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette
détails,
question.
Il nous manque des détails, c'est
exactement.
Vrai, c'est
vrai. Mais pour moi, le détail n'a pas d'importance ici. C'est l'enseignement, n'est-ce pas? Il y a une faute et une malédiction qui suit, et je retrouve là l'Éden, n'est-ce pas? Et une conséquence à long terme, parce que le pays de Canaan viendra bien après, n'est-ce pas? Et les rapports entre Israël et Canaan, eh bien, Japhet et Sem, eh bien, ça, on le découvrira dans le livre de Josué, des Nombres, etc. C'est pourquoi cette vision globale de la Bible est nécessaire, et je peux me rendre compte que lorsqu'on lit pour la première fois le livre, on n'arrive pas à voir le lien.
Élise, j'ai une question à te poser concernant le fait que Noé est considéré comme étant juste aux yeux de Dieu. C'est le seul qui est sauvé, d'ailleurs, il nous est dit, hein. Et pour autant, ça ne fait pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur ou de faute.
Tu vas trouver dans la Bible d'autres personnes comme ça où c'est encore plus marquant et choquant, j'ai envie de te dire. Parce que là, bon, ok, Noé, il a bu un coup, il savait ou il savait pas qu'il allait finir ivre. Bon, voilà, c'est pas idéal ce qu'il a fait. C'est pas non plus quelque chose qui va faire que t'es perdu pour toujours. Mais tu as d'autres personnes, par exemple un roi qui s'appelait David, où c'est dit plein de fois un homme selon le cœur de Dieu.
Quelqu'un que Dieu aime.
Oui, bon, il a trompé, il a pris plein de femmes déjà, parce que bon, une femme, voilà. Il a piqué celle d'un autre, et comme il voulait pas trop que ça sache, il a fait assassiner le mari. Bien, l'homme parfait. Pourtant, c'est quand même marqué que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Et je pense que c'est la même chose avec Noé, même si là, ce n'est pas explicitement dit. Sur David, c'est dit de façon beaucoup plus claire. C'est que quand il se rend compte qu'en effet, il n'a pas fait bien, que ce qu'il a fait était vraiment mal et avait des conséquences, etc., il vit ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire, il a horreur de ce qu'il a fait, de ce que ça fait de lui, et il est vraiment en recherche d'une demande de pardon et d'un changement pour que ça ne se reproduise plus. Et donc, je pense qu'être juste aux yeux de Dieu... Ce n'est pas un objectif inatteignable seulement pour quelques êtres parfaits, immatériels, qui sont au-dessus de tout, de choses, et qui vivent dans des cavernes loin de toutes les vicissitudes de cette terre. Ce n'est pas ça être juste selon Dieu. Ce n'est pas ne jamais se tromper, ce n'est pas jamais se planter. C'est être vraiment dans une démarche où on est à la recherche de qu'est-ce que Dieu veut apporter dans ma vie, quelle valeur il veut me donner, et faire de son mieux pour s'y tenir. Et quand on se plante, d'être vraiment dans une conception de... J'essaye pas de planquer ce que j'ai fait de mal, j'essaye pas de le cacher tout au fond, je l'admets, je le présente devant Dieu et je dis « aide-moi à m'améliorer ». Je crois que c'est ça être juste devant Dieu. Et cette démarche-là, je suis persuadée que c'est pas du tout impossible de le vivre. Et qu'on peut être appelé juste devant Dieu, non pas par... les mérites de ce qu'on est capable de faire, mais parce que on veut que notre cœur se tourne vers Dieu et qu'il nous aide à avoir un cœur meilleur.
Très intéressant, merci beaucoup.
Oui, je pense qu'il y a deux phases dans l'histoire. Dans une première phase, Noé sort de l'arche. Il offre un sacrifice qui va faire plaisir à Dieu. D'ailleurs, Dieu dit, eh bien, il sentit une odeur agréable. Et un peu plus loin, verset 9, Dieu bénit Noé et ses enfants. Voilà la première phase. Et d'ailleurs, j'ai été frappé en lisant le texte hier soir où il est dit que Dieu dit en son cœur, Dieu ne parle pas à Noé, hein, mais dans son cœur, il dit finalement, même si l'homme, dès sa jeunesse, est tordu, il y a encore quelque chose de bon, n'est-ce pas? Et Dieu bénit. Tu vois? Ensuite, cette deuxième phase de l'histoire un peu bizarre, d'ivresse et de malédiction de Cam, n'est-ce pas? Mais ça, je le retrouve partout, avec David, avec Abraham, avec tout.
Avec tous les grands hommes de la
Bible. C'est pour cette raison, dans cet angle, ça me réconforte. Donc, je ne suis pas le seul. Hein. Les meilleurs parmi les meilleurs ont connu cette phase.
On se plante.
D'ailleurs, même Paul dira « misérable que je suis à chaque fois que je veux ». Et personne sur terre, en dehors du Christ, eh bien, peut se réclamer être parfait ou n'avoir pas connu des moments de faiblesse.
Alors ça, c'est génial.
Et là, nous avons une image d'un Dieu qui est bien loin de ce Dieu prêt à sanctionner, à maudire, à détruire à la moindre erreur. Uh-huh. Et je crois que c'est ça la leçon à dégager. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu, n'est-ce pas, par rapport à nous? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser, pas nous arrêter sur l'homme lui-même dans ses
et sur
faiblesses.
Sa faute, mais oui.
Ça, on n'a pas besoin d'aller loin pour découvrir. On n'a qu'à nous regarder nous-mêmes et on se rend compte. Mais comment Dieu va agir? Et tout le message qui va suivre dans la Bible, c'est un Dieu sauveur, un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Et la justice devant Dieu ne se justifie pas, excusez le terme, la justice devant Dieu ne s'exprime pas par
nos performances propres.
Nos performances.
Ah, tout à fait, tout à fait. Tu voulais réagir, Élise, aussi.
Juste que, je pense, une des leçons qu'on peut tirer aussi de ce texte, c'est on nous présente un père et ses trois fils, avec trois fils qui auront des destins différents. Pourtant, ils ont le même père. Ils ont vécu les mêmes choses avec lui. Et je pense que ça, c'est important que la Bible le mette. Il y a d'autres endroits où elle en parle, mais ça peut être extrêmement déculpabilisant quand on est parent. On peut tout donner à ses enfants. Et on peut être quelqu'un de juste devant Dieu, mais ne pas être le parent parfait. Oui. Noé n'était pas un père parfait, la preuve. Il a eu de la confrontation avec ses fils. Il a fait de son mieux. Et certains de ses enfants ont eu une réaction très respectueuse. Et un de ses fils, ben visiblement, il y avait quelque chose dans son cœur qui était pourri. Je reviens à ce que je disais, mais vraiment, enfin, voir son parent en situation de faiblesse et se dire sciemment « je vais en profiter pour l'humilier encore plus », il faut quand même aller loin dans quelque chose qui ne va pas dans son cœur pour pouvoir faire ça.
Soit en termes d'immaturité, soit en termes de méchanceté.
Voilà, d'immaturité, de méchanceté ou de tension avec le parent.
Mais il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement.
On n'a pas les détails. Mais en tout cas, peut-être pour ceux qui nous regardent, on fait de son mieux avec les enfants. On n'est pas des parents parfaits. Aucun d'entre nous n'est un parent parfait. Et ce n'est pas pour ça que Dieu nous considérera moins bien. Les enfants sont responsables, à un moment ou à un autre, pas quand ils sont petits, mais quand ils sont grands, ils sont responsables de leurs propres choix. Et Dieu ne nous tient pas responsables des choix de nos enfants adultes. Ils sont leurs personnes propres. Et il faut qu'on respire aussi par rapport à ça en disant, on les aime et on continuera à les accompagner au mieux. Mais ils sont leurs propres personnes.
Et je crois que c'est important de souligner, bon, comme on l'a dit souvent, la Bible n'entre pas dans les détails. Hein. Il est dit ici, il vit la nudité de son père et il le rapporta. Il n'y a rien de plus. On peut penser qu'il a fait ceci. Bon, le fait que le père va maudire fait comprendre
qu'il y avait un problème quand même.
Plus grave que ça. Oh, pas seulement voir et rapporter.
Bien sûr.
Et ça, c'est la Bible, n'est-ce pas, qui ne n'entre pas
dans tous les détails.
Dans tous les détails, mais on peut comprendre qu'une faute est grave par rapport à ses conséquences, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ce qu'Élise venait de dire, même Dieu n'a pas réussi dans sa pédagogie, dans son éducation des enfants. Il n'a pas réussi avec Adam et Ève qui ont fait leur choix. Hein. Dans la parabole de l'enfant prodigue, les deux enfants prennent deux voies différentes. Et dans cette parabole, le père, c'est qui? C'est Dieu lui-même.
Symboliquement, absolument.
Donc,
oui.
Ces deux enfants ont eu sans aucun doute la même éducation, mais ils ont pris deux voies différentes. Et c'est peut-être le message intéressant à souligner ici. Par rapport à ce Dieu, nous jouissons d'une totale liberté et il ne faudrait pas le rendre responsable
de
nos choix. Une chose qui me vient à l'esprit, je crois que c'est important pour aujourd'hui, ça m'a toujours frappé de constater que, parce qu'une alliance sera faite ici, on n'a pas eu le temps d'en parler, Dieu fait alliance avec Noé. Et cette alliance touche les animaux et l'univers. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. En Occident, on a fait ce compartimentage entre la nature et l'homme, alors qu'on voudrait revenir aujourd'hui à une vision globale où la nature et l'homme sont impliqués
dans un tout.
Uh-huh. Et la Bible uh-huh. a toujours vu les choses ainsi. Je pense à Jonas qui prêche, Ninive se repent et tous les animaux jeûnent. Ça paraît un peu bizarre, n'est-ce pas? Et le message est là, c'est que ce salut est un salut global, où même l'animal et la nature est quelque part touchés. Et donc là, nous avons un message écologique très fort.
Très intéressant.
Où Dieu fait alliance, non pas avec l'homme seulement, mais avec son environnement.
La création.
Et les animaux aussi participent à cette alliance.
Alors, chers amis, nous arrivons à la fin de notre étude. Merci beaucoup de ces apports, hein, qui sont très riches, qui donnent à réfléchir. Disons simplement que, premièrement, ça n'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien qu'on est infaillible. Et ça n'est pas parce qu'on est proche de Dieu qu'on ne se plante pas. Par contre, un cœur sincère aide à repartir dans la bonne direction. Et la confusion est ce qui nous amène soit à nous considérer comme tout à fait minables, soit au contraire, nous considérer tellement haut qu'on écrase tout le reste. Mais Dieu souhaite que chacun de nous trouve une place qui soit non seulement épanouissante pour lui-même, mais pour les autres. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
C'était l'Instant Bible avec la pasteure Élise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jethro Camille.
Votre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.